Bonjour à tous et bienvenue dans ces magazines d'échange citoyen parole aux auditeurs. Le 4 avril de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Il y a 2 ans, le secrétaire général des Nations Unies avait demandé à la communauté internationale de mobiliser les ressources et les partenaires pour faire progresser notre vision d'une planète sans mines. La RDC, en tant que pays post-conflit, est très engagée depuis près de 10 ans dans la lutte anti-mines avec ses partenaires, entre autres UNMAC. Quelles sont les avancées réalisées et quels sont les défis qui restent à relever dans la lutte anti-mines? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Julie Feza est à la gestion du standard. Jérôme Ngembo est à la réalisation et coordination. Et Pierrot, il avait déjà le plaisir de vous présenter ces magazines sous la supervision de Martin Seboujan, vos fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Bonjour à tous. Le 4, le monde a célébré la journée internationale pour la sensibilisation aux mines antipersonnelles, ces armes redoutables enfouies dans le sol. Le dossier qui est concerné aussi par la RDC, les pays qui sortent d'un long conflit avec la situation aussi des mines, près de 10 ans de lutte soutenue par ses partenaires. Le point aujourd'hui, c'est avec vous dans votre milieu, les réalisations, ce qui a été déjà fait dans la lutte anti-mines, mais aussi les défis à relever, la prise en charge des victimes, les engins non exclusifs, comme on appelle. Voilà toutes ces questions, nous les abordons avec vous dans cette émission. Rappelons quand même que depuis 2002, l'UNMAS en RDC a détruit 3857 mines terrestres et 7,3 millions de restes explosifs de guerre. L'agence onusienne a également fourni des séances d'éducation au risque à 3,6 millions de personnes vivant dans des zones lourdement affectées par la contamination, par les mines et d'autres engins non explosifs. En plus, de toucher 23,9 millions de personnes grâce à des activités et des sensibilisations au risque par SMS et radio. Vous êtes nombreux à être avec nous dans cet échange pour faire le point dans votre milieu, dans votre province, si jamais vous êtes concerné par cette situation et comment au niveau local, les autorités, comment tout est organisé pour pouvoir faire face à la sensibilisation qui se sont aussi dans la prise en charge des personnes, des victimes des mines. On en parle avec vous, Alain Bolozo, vous écoutez tout ça. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Oui, bien que je ne sois pas spécialiste en la matière, je sais que cette situation a une portée mondiale, mais les responsabilités sont connues. C'est-à-dire c'est plus les États qui, les grandes puissances économiques qui sont les producteurs de ces mines. Et lorsqu'on cherche à trouver des solutions, bien que je salue ce qui a été fait en République démocratique du Congo, on doit plutôt intégrer la dimension de la fabrication, c'est-à-dire encourager la fabrication de ces engins de mort et puis, dans une certaine mesure, continuer à assainir notre espace. Vous allez vous rendre compte qu'on a plus découvert ces engins vers l'Est. Tout simplement parce que c'est il y a une forte propension de l'insécurité, des crises armées vers l'Est. Et nous, personnellement, nous voulons assez que, au-delà de courager ceux qui fabriquent, mais aussi on doit mettre l'accent sur la paix. Et par temps de la paix, nous pouvons nous rassurer qu'on va réduire tant soit peu ou carrément élaguer cette situation pour sécuriser nos frères et sœurs. La plupart des gens aujourd'hui qui sont amputés des bras, des jambes, c'est tout simplement parce qu'ils ont connu ou ils ont eu la malchance de rencontrer ces mines et leur vie aujourd'hui est dans une situation chaotique. Donc nous nous encourageons à ce que cette organisation continue dans ce sens, que nous puissions arriver à assainir tout notre territoire, que qu'il n'y ait plus de mines et que nous n'utilisions plus. Et comme ça, on va résoudre de manière durable cette situation et permettre à ce que nous vivons dans la quiétude.
Merci beaucoup, Alain Bologna. Vous estimez d'abord que le travail doit être fait en amont, cela veut dire auprès des États, là où les mines sont fabriquées, ceux qui sont encore commercialisés, là, des engagements. Quand on regarde les protocoles d'Ottawa 1999, les États qui s'étaient engagés à ne plus fabriquer, et surtout la commercialisation de mines, mais le problème doit se faire en amont. Mais en aval, c'est une question de la paix qui doit être considérée comme une priorité, parce que si les États travaillent pour la paix, il n'y aura pas de sécurité des guerres qui vont favoriser l'utilisation de mines. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir appelé de Kinshasa. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Est-ce que la ville de Kananga aujourd'hui et les Kasaï centrales, tout comme la province du Kasaï, sont-ils concernés par cette situation des mines encore? Parce qu'on sait que ces provinces ont connu aussi des cas de la guerre dans les années antérieures. Maître Adrien, vous êtes avec nous? Dommage qu'on a des petits soucis avec Maître Adrien de Kalinga. Junior Bompango, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Junior.
Bonjour, M. Jacques. C'est Junior Bompango, Emma Bompango.
C'est bon. Je
vais réfléchir parce qu'il faut appeler le chat. Oui. Pour moi, cette question, vaut mieux que son président d'or. Mais alors, il est difficile, mais pas impossible, de se débarrasser des régimes explosifs de guerre. Tant que les groupes armés qui sont et constituent le défi sécuritaire pour la République démocratique du Congo ne sont encore unis, tout hors tout état de nuire à la population congolaise et surtout de nos frères et sœurs qui souffrent dans ce pays. D'où il est d'urgence et du devoir de toutes les nations du monde, et plus particulièrement de la RDC, de renforcer la coopération afin de mettre fin à la commercialisation illicite des armes de guerre.
Mais Junior, est-ce qu'aujourd'hui dans l'ex-province de l'Équateur, on sait que toutes ces provinces ont connu ces problèmes de guerre depuis une dizaine d'années, avez-vous aujourd'hui l'impression que le travail a été fait, on a nettoyé vraiment, parce qu'on connaît des endroits où aujourd'hui comme la province du Sankuru, comme le Kasaï central et la Lomami, c'est des endroits où encore où il y a des zones où la population ne peut pas accéder aujourd'hui ni pour l'agriculture parce qu'il y a encore ces engins qui existaient encore. Est-ce que cette situation a été aussi répertoriée dans la province, dans l'ex-province de l'Équateur?
Oui, effectivement. Et si vous avez suivi l'ONG qui travaille dans ce secteur, on a répertorié un cas récemment dans la province ici des Mambouais du Nord Ubangui, si j'ai encore une bonne mémoire, c'était à Guadolité. On a trouvé des engins explosifs près des enfants qui jouaient, c'était pour jouer de football. Et à part ça, moi-même je suis le témoin des événements dans le territoire de Bassankoussou, où il y a des engins explosifs qui ont donc démantelé jusqu'à ce jour. Et les gens continuent à vivre dans cette maison que l'ONG MAG avait tenté de le faire, mais n'avait pas réussi. On ne sait pas à quand cet engin pouvait exploser dans les jours à venir. Oui, c'est une situation qui est un peu quand même déplorable, mais nous demandons seulement les partenaires qui étaient dans ce secteur puissent se s'activer pourvu que la situation aille dans le bon sens.
Mais je n'ai pas que vous avez évoqué les cas des engins non explosés. Et avez-vous aussi c'est l'impression qu'il y a un travail de sensibilisation auprès, parce que vous avez parlé des situations des enfants qui jouent au foot, il y a aussi des enfants qui ont répété un objet dans l'eau, tout ça, voilà, ça arrive. Il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils ont ramassé une boîte, une pièce, quelque chose qu'ils voulaient manipuler. Mais est-ce qu'aujourd'hui avez-vous l'impression qu'il y a des sensibilisations auprès de la population pour que les gens fassent attention avec ces différents engins qu'ils croisent, que ce soit au champ, que ce soit quand les enfants jouent?
Pour le moment, vraiment, la sensibilisation est au rabais. La sensibilisation est au rabais, la population n'est pas beaucoup vraiment informée quant à ça.
Merci beaucoup, Junior. Vous estimez qu'il y a une baisse des sensibilisations et pourtant c'est le grand travail qui doit être fait dans toutes ces zones qui ont connu la guerre, c'est de pouvoir sensibiliser la population sur les dangers de tous ces matériels qu'on peut ramasser. Mais Adrien, je crois maintenant la ligne s'est améliorée avec la ville de Kananga. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Oui, bonjour, Thierry Lamengi. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Et aujourd'hui, que ce soit dans la ville, dans l'Interland, à d'autres territoires qui ont connu cette situation des mille, les victimes aujourd'hui, où en sommes-nous? Y a-t-il un travail qui s'est fait, des sensibilisations, mais des prises en charge des victimes? Est-ce que la population est assez sensibilisée sur les dangers de mines, mais aussi d'autres engins que les enfants ramassent à côté des camps militaires ou bien au champ, parce que la province a connu aussi la situation des mines, maître Adrien?
Oui, merci Thierry de la parole que vous m'accordez. C'est vrai que d'une manière générale, la province, l'ex-province du Kasaï occidental, n'avait pas connu ces problèmes, sauf une partie du côté territoire de Békéssé, avec donc nos amis du RCD, etc. C'est vrai qu'il y avait une équipe qui travaillait, mais il y a eu aussi un manque criant d'informations vis-à-vis de la population locale de Békéssé. Parce qu'à trois reprises, il y a eu des engins non explosés dans des champs de la population. Lorsque la population travaillait, certaines mamans, ils ont eu à croire que c'était des histoires et ils sont allés toucher. Il y a eu des explosions et puis ça a coûté la vie à certaines personnes. C'est comme ça que dès que nous étions saisis de cette situation, nous avions commencé d'abord par déplorer pour dire que comment ces gens-là pouvaient travailler sans toutefois informer la population. C'est comme ça que nous estimons à notre part que la meilleure des choses est de continuer à sensibiliser toujours la population, parce que cette situation du côté des Békéssé demeure. On n'a jamais donc déminé toutes ces mines-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que cette équipe avait promis d'abord et puis de revenir pour continuer avec le travail. C'est comme ça que nous estimons qu'on a contacté même la délégation pour dire que avant de revenir, est-ce qu'il n'était pas possible de laisser une petite prudence pour continuer à sensibiliser la population, surtout en passant porte à porte, en passant dans des églises, parce que vous savez que le territoire de Békéssé, c'est l'un des territoires très enclavés de la province du Kasaï pour le moment. Il n'y a pas de chaîne de radio pour qu'on puisse passer des communiqués. Bon, c'est comme ça que la délégation m'avait répondu. Et oui, en tout cas, c'était très bien, parce que chaque fois qu'on travaillait, on se rendait compte que la population était apparemment curieuse et la population ne comprenait pas ce qu'on faisait au juste. Parce que les mines, Pierrot, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la population congolaise n'est pas bien informée là-dessus. Il faut d'abord qu'il y ait une conséquence pour que la population puisse se rendre compte. Maintenant, avec toutes ces conséquences-là, si on sensibilise vraiment la population, je pense que ça sera une très bonne manière pour épargner cette population-là de tout le danger. Mais si il n'y a pas vraiment la sensibilisation, et c'est que vous savez que la population des Békéssé, se nourrit de la chasse et puis de l'agriculture. Tant qu'on ne pourra pas vraiment informer la population, que si vous voyez telle histoire semblable à quelque chose comme des bocals, il ne faut pas toucher, il faut appeler quelqu'un, ça sera vraiment exposer davantage la population des Békéssé. C'est comme ça que moi je suis en train d'insister sur la sensibilisation. Sans la sensibilisation, ça sera vraiment très compliqué, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas à quand cette équipe-là pourra encore revenir vers Békéssé pour continuer avec le travail.
Merci beaucoup, maître Adrien. Vous êtes revenu sur la situation du territoire de Békéssé dans la province du Kasaï, où il y a eu aussi les passages de la guerre, des mines, il y a eu des femmes qui ont perdu la vie au champ, mais là, vous insistez beaucoup sur la sensibilisation compte tenu de l'accès difficile des médias dans ces territoires enclavés, mais là, si on peut faire du porte-à-porte, s'il fallait créer la confiance confiance entre ceux qui travaillent dans le domaine avec la population, mais plus insister pour que les gens qui sont au champ, qui sont dans la forêt, hein, puissent ne pas manipuler n'importe quel engin, n'importe quelle boîte, n'importe quelle histoire qu'on retrouve dans le milieu où on estime qu'il y a un fort potentiel de danger. Et là, et d'ailleurs, on rappelle que le Japon a octroyé un don de 2 millions de dollars américains au service de lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS dernièrement. C'est pour lui permettre de pouvoir continuer ses activités humanitaires et de lutte anti-mine en RDC. Il y a une grande concentration pour ces fonds, que ce soit à Lomami, Sankuru, Kasaï Oriental, Kasaï Central et Maniema. Non seulement des mines qui sont enfouies sous le sol, mais aussi en ce qu'on appelle des restes explosifs des guerres, hein, qui sont des fois des matériels, des petites choses que les enfants ramassent et manipulent, mais tout ça, il faut une forte sensibilisation. Merci beaucoup, Maître Adrien Gabriel. Vous êtes ici à Kinshasa, vous avez suivi la thématique. Bon, les compatriotes insistent beaucoup sur le rôle de la sensibilisation dans la lutte contre les mines, mais aussi contre ces restes explosifs des guerres, hein, qu'on retrouve des fois à travers le pays. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour arriver vraiment à renforcer ces travaux de lutte sur terrain?
Bonjour également à l'auditeur et aux différentes personnes qui nous écoutent à travers la radio pratique. Il est vrai que la sensibilisation est très importante, que nous ne pouvons pas négliger parce que moi personnellement même, je suis du Sankuru. Ce problème nous avons connu et ça continue jusqu'à présent. Mais, en fait, moi je pense qu'il faut toujours faire l'état des lieux. Connaître maintenant, il y a dans quel site se trouvent les différentes mines qui restent. Après ça, bien qu'il y ait la sensibilisation, mais il faut également que l'État congolais aussi prenne la charge. Non seulement maintenant, c'est l'étranger nous aider qu'on sort en cette situation, peut-être bon, connaître qu'est-ce que nous devons faire pour que les mines ne puissent pas connaître de payer des conséquences ou des décès à notre population, mais il faut qu'il n'y ait pas des problèmes entre les Congolais entre eux-mêmes. Parce que si aujourd'hui il y a eu des mines, parce qu'il y a des problèmes de conflits en RDC. Comme ça, dans un premier temps, il faut éviter les conflits. Même si nous allons dire aujourd'hui, bon, qu'il y a des mines et que par-ci par-là, il n'y a plus de mines. Mais il peut y arriver que les fournisseurs puissent encore fournir s'il y a des conflits entre nous, les Congolais. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la confiance congolaise entre les politiques, puisse avoir la tranquillité, la paix dans notre pays.
Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Gabriel. C'est important, c'est que vous avez dit. Il faudrait d'abord aujourd'hui qu'on mette à la disposition de la population de la cartographie de mines actives personnelles aujourd'hui à travers le pays, les Sankuru particulièrement où vous avez séjourné. Mais vous estimez que tout doit, la sensibilisation de la population, oui, mais l'accent doit être mis sur la fin des conflits, parce que aussi longtemps qu'il y aura des conflits, c'est possible que les fabricants et les marchands de ces armes puissent pouvoir les ravitailler encore. Mais si au niveau de la RDC, on travaille pour un retour à la paix, pour une vie pacifique, hein, la cohabitation politique sans recourir aux conflits armés, je crois que c'est de cette façon qu'on peut lutter d'une manière plus efficace contre ce phénomène. Merci beaucoup, Gabriel de Kinshasa. Olivier, vous êtes à Kikuite. Bonjour. Vous avez suivi notre ami Gabriel qui disait tout à l'heure, c'est important qu'il faut mettre fin au conflit et c'est de cette façon qu'on peut aussi lutter d'une manière plus efficace contre les mines et tous les autres engins de restes explosifs des guerres. Bonjour Olivier et bienvenue.
Ok, merci. Bonjour à tous les auditeurs et à vous aussi. Ok, voilà. Vous savez que dans cette histoire de sensibilisation et dans la lutte contre les mines et tous les engins explosifs, c'est un peu comme la lutte contre la vente illicite des armes. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces affaires-là. Alors, c'est ça qui rend d'abord le travail très compliqué. Si tout le monde se mettait au travail sérieusement, ça permettrait qu'on puisse diminuer. Mais c'est vrai que le fait qu'on sorte des guerres ou des multiples conflits, c'est un élément très important. Mais il y a aussi le fait que la sensibilisation, demande qu'on ait des techniques de sensibilisation. Je prends l'exemple de la RDC. Qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons à la radio Kapi, nous parlons dans les radios locales, on parle. Mais les citoyens qui se trouvent ici dans le Kwilu, par exemple, à Idiosa ou à Bushibanda, ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Alors que dans une bonne civilisation, on pouvait utiliser les médias comme la télévision, on montre ne plus que des images élémentaires, on dit voici à quoi ressemble une grenade, voici à quoi ressemble une mine de fabrication artisanale. Mais tout ça, nous ne voyons pas. Donc c'est, moi je fais connaître, mais le gros de la population, en tout cas très peu connaît ces affaires-là. Donc je pense que si on pouvait, du côté de la RDC par exemple, développer les médias, et ça, ça demande beaucoup de volonté qu'on développe les médias, ça va faciliter la sensibilisation. Mais il ne faut pas oublier non plus que la sensibilisation peut avoir un impact négatif. Parce que si nous mettons à parler des grenades tous les jours, des mines tous les jours, vous savez, il y a des gens qui n'y plus au champ, parce qu'ils vont avoir ce qu'on appelle, c'est pas moi, la psychose des mines, la psychose des grenades. Et ça, donc, c'est quelque chose qui doit aussi être étudié. Donc, je pense que nous devons y aller sérieusement, éviter de créer une psychose dans la population, parce que ça va avoir un impact très, très négatif. Mais la première chose pour le gouvernement, c'est d'abord voir quelles sont les méthodes à utiliser et quels que sont les types de méthodes. Les médias, c'est très important. Ça, c'est un élément que à RDC, nous devons travailler, les médias. La prévention, c'est très la meilleure chose, et la prévention suppose que nous luttons tous de façon sincère. Je dis bien de façon sincère, nous luttons pour que ces histoires ne circulent pas. Alors, vous voyez, si vous prenez l'axe Est de Vitoul, vous partez de Bondo, vous prenez Bounia, vous descendez jusqu'à Malembakulu, eh bien, c'est un fait qu'on ne contrôle pas. Et quand nous disons qu'on doit demander aux gens de se désarmer volontairement, vous comprenez que nous ne pouvons pas maîtriser cette affaire. Donc, on ne peut pas attendre que les malfaiteurs viennent faire les choses volontairement. Il faut aller avec force, et de force, il faut aller avec eux, vers eux. Donc, je pense que c'est ça que nous devons faire.
Merci beaucoup, Olivier. Vous avez insisté sur le rôle de médias dans la sensibilisation, mais éviter aussi la psychose. Mais l'idée aujourd'hui, c'est quand on dit aux gens qui font au champ, au moment, les zones où on considère que ces zones sont à fort risque. Vous avez parlé de ces provinces célestes jusque dans le Katanga. Alors, il faudrait aujourd'hui dire à la population qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, quoi ne pas toucher quand vous êtes en train de cultiver ou quand vous êtes dans la forêt. Mais le rôle de médias, c'est très important aujourd'hui, hein, vous l'avez beaucoup, vous avez insisté là-dessus, Olivier, mais nous rappellerons quand même qu'avec la Croix-Rouge internationale, je crois qu'il y a même des gens qui ont été élevés au rang des ambassadeurs, hein, pour la lutte anti-mine en RDC, comme la star de la musique congolaise, Papa Wemba, par exemple. Le rôle, c'est de pouvoir impliquer des leaders d'opinion qui peuvent aller dans ces travaux de sensibilisation, de recadrer, que ce soit auprès des autorités, auprès de la population, parce que la lutte anti-mine, c'est aussi s'occuper des victimes. Voilà autant toutes ces questions, mais vous estimez que le rôle de médias, c'est très important dans ces domaines. Merci beaucoup, Olivier Prosper. Vous êtes à Kananga. Bonjour, Prosper, et bienvenue.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, Prosper.
Ok. Mais je sais que la problématique de la lutte anti-mine en RDC doit remonter jusqu'à 1997, lors de guerres des libérations qui sont parties de l'Est. C'est ce qui a également, la progression de cette guerre a inséré les Kasaï centrales donc sur la ligne de front. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on puisse retrouver les mines et restes explosifs des guerres dans les Kasaï centrales. La problématique plutôt étant vraiment importante, capitale, nous devons penser à des solutions, comme vous l'avez demandé. Pour moi, il faudrait que la solution passe par la création de capacités et le renforcement de capacités des structures locales qui ont en charge cette problématique de la lutte anti-mine et reste explosif des guerres. Il faudra que les Nations Unies, l'UNMAS en particulier, puissent se donner ce rôle de renforcer les capacités et les créer dans ces structures locales, parce que ce sont ces structures qui sont en contact direct avec la réalité du terrain. Il faudra aussi insérer d'une manière effective la lutte anti-mine dans les cursus scolaires pour que les enfants en apprennent depuis l'école primaire, par exemple. Vous voyez, cela est très important du moment que vous avez dans le Kasaï central des villages abandonnés, comme dans les secteurs de Nkundui, dans les territoires de Zimbelenge, il y a des villages abandonnés à cause des mines. La pollution de l'environnement n'a pas permis à ces populations d'y rester. il y a, si je ne me trompe pas, 2 ou 2 ans et demi, qu'une mine a été découverte sur la frontière avec l'Angola, du côté de Chicapa. Bon, parce que, vous savez, j'essaie de parler de cette problématique par rapport au Kasaï occidental, donc, disons, la province dans sa configuration non encore, disons, découpée. Donc, on a découvert une mine de l'autre côté. Cette mine-là, vous voyez, juste au niveau du marché de Kisena, parce qu'une mine, d'après leur théorie, n'est jamais seule. C'est une présence déjà d'un champ de mines, surtout que, au niveau de frontière, vous voyez, on essaie de planter des mines, ça et là, pour essayer de protéger la frontière. Tout ça insécurise les populations en mouvement de ces côtés-là. C'est pourquoi moi, je pense qu'on doit redynamiser ces structures locales, on doit leur donner des moyens pour travailler dans ce sens. Et donc surtout insister sur la prévention, parce que le déminage coûte extrêmement cher, selon ce qu'on nous dit. Il faut la prévention, et ce sont ces structures d'éducation au risque qui doivent normalement mettre, donc produire des séances, mettre de l'accent sur la prévention, surtout la prévention, informer la population sur les moyens, sur les possibilités de prévenir ces accidents-là. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Prosper. C'est important ce que vous avez dit. On rappelle bien sûr pour la ville de Kananga avec, vous savez, les affrontements aujourd'hui en 97. On a vu les alentours de l'aéroport de la ville hein, qui était une zone qu'on ne pouvait plus fréquenter. Et puis vous avez évoqué les territoires des Dimbéliers dans les secteurs de Kondoï où il y a eu quand même ces affrontements. D'un côté, la ligne de front avec le RCD et ici avec les troupes gouvernementales, la frontière avec l'Angola. On connaît la situation des mines en Angola et plusieurs victimes hein, de ceux qui partaient pour chercher à exploiter les diamants. Mais tout doit passer par la sensibilisation. Mais vous estimez qu'il faudrait aujourd'hui renforcer le travail, la capacité des structures locales de lutte et de sensibilisation dans les domaines des mines. C'est très important que ces structures soient capables de pouvoir répondre aux besoins qui se posent sur le terrain, sensibiliser la population, mais aussi être à mesure de repérer ces restes explosifs des guerres et pouvoir les détruire. Et c'est de cette façon qu'on peut arriver à protéger la population. Mais en évoquant tout à l'heure la prévention, vous avez raison. Je crois bien à notre ami junior des Bandaka qui disait qu'il faut mettre l'accent sur la lutte contre les conflits armés. Gabriel l'a dit aussi. Et c'est de cette façon qu'on peut empêcher alors le recours à ces engins de mort. Merci beaucoup, Prosper, de nous avoir appelé de Kananga au Kasaï central. Docteur Richard, lui, est à Kinshasa et Guillaume Amahagi à l'ex-province orientale. Je rappelle encore le numéro de contact pour intervenir dans ces magazines consacrés, bien sûr, à la célébration de la Journée mondiale internationale pour la sensibilisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aux mines, on estime qu'aujourd'hui, les défis, beaucoup de défis restent à relever. En RDC, un pays post-conflit qui a connu des dizaines d'années des troubles, hein, où le programme UN Mars aujourd'hui, avec le gouvernement, lutte pour pouvoir, bien sûr, éliminer ces engins, mais aussi s'occuper des victimes. 081-890-6315.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Et docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Pierrot.
Bonjour. On vous écoute. Oui, docteur Richard, on vous écoute. Docteur Richard, dommage qu'on a perdu Docteur Richard alors qu'il venait d'être avec nous. On pourra tenter de le recontacter. En attendant, nous allons à Mahagi. Guillaume, bonjour. Guillaume, vous êtes avec nous, bonjour.
est-ce qu'il y aura des petits soucis de ligne, que ce soit Kinshasa avec Dr. Richard ou bien Mahagi avec Guillaume. Je le disais tout à l'heure que dans la stratégie de lutte, il faudrait le renforcement des capacités de l'autorité nationale de lutte antimine et un objectif stratégique de l'Organisation des Nations Unies dans l'ensemble de ses programmes de lutte antimine, ainsi qu'un objectif spécifique du plan cadre de l'aide des Nations Unies pour l'aide au développement en RDC. Et dans ce cadre, je venais de le dire à l'introduction de cette émission, que le Japon venait d'octroyer un don de 2 millions de dollars américains au service de la lutte antimine des Nations Unies en masse, afin de lui permettre de mener des activités humanitaires de lutte antimine en RDC. Il y a encore des provinces qui sont concernées par ce programme, la destruction des restes explosifs des guerres, entre autres des engins explosifs dans 5 provinces. On a parlé des Lomami, Sangourou, Kasaï Oriental, Kasaï Central et le Maniema. Mais plusieurs auditeurs sont revenus sur les rôles de la sensibilisation, mais aussi de la prévention. Cela veut dire s'occuper de la lutte contre les conflits armés, prévenir les conflits armés. On pourra bien protéger la population contre les dangers qui représentent les mines et les engins non explosés. Égide, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Égide.
Bonjour, monsieur.
Comment vous écoutez, Égide?
Bon, ma participation par rapport à l'émission, je propose qu'on puisse aussi former nos militaires des FARDC à déminer. Parce que vous voyez souvent, on amène souvent des gens qui viennent de l'extérieur pour venir essayer de faire le déminage. Et ça coûte quand même cher par rapport à l'opération de déminage. Si on pouvait former aussi les FARDC, parce que après avoir installé la paix, c'est qu'on peut commencer à envoyer une équipe de nos militaires pour passer en premier, en attendant que ceux qui viendront de l'extérieur puissent arriver. Et ça va coûter moins cher, et il faut aussi sensibiliser la population, comme les précédents l'ont dit.
Merci beaucoup, Gilles. Mais je crois que quand vous regardez le travail tel qu'il est fait par des ONG internationales, mais y compris aussi la Société des Nations Unies qui s'occupe de ça, plusieurs personnes sont formées, que ce soit des cadres des Congolais ou des étrangers, mais vous estimez qu'il faudrait plus former les FARDC qui doivent prendre la relève chaque fois quand il y a des cas d'insécurité, quand il y a par exemple une guerre qui prend fin, qui doivent être formés dans le travail de déminage. Ça peut réduire le coût s'il faut recourir à des sphères étrangères pour le faire. Merci beaucoup, Égide. Docteur Richard, vous êtes avec nous. Je crois que la ligne s'est améliorée. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Pierrot. Merci pour m'avoir récupéré.
On vous écoute, Docteur Richard.
Oui. Alors, moi, je vois deux genres de problèmes. Problème, c'est un grand problème de santé publique lié à la création des invalides dans la communauté. Ce sont des personnes valides que les autres ont pu rendre comme ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un grand problème de santé mentale de nos hommes politiques. Est-ce que lorsqu'on est contre je ne sais pas qui, il faut aller tuer les autres, placer des mines et rendre les gens invalides au point de le réduire à des gens gardés par exemple dans des postures de mines? C'est ça le grand problème. Je voudrais aussi dire que nos églises dites de réveil ne respectent pas la population. Tous ces rebelles qui sont allés se convertir chrétiens sont présentés comme des personnes élevées en dignité. Ça, c'est insulter la communauté. Je crois que s'ils sont sérieux, Zaché n'a pas eu honte de dire qu'il était mauvais, il a restitué le double de ce qu'il avait volé. C'est ainsi que Jésus-Christ l'avait visité. Nos anciens rebelles qu'on a vus ici, capitaines, caporal, ils sont devenus des généraux. Qu'est-ce qu'ils ont fait des généreux à la communauté qu'ils ont martyrisée comme ça? C'est ça le grand problème. Oui, il ne faut pas qu'on commence à crier à la pitié de la communauté internationale lorsque les anciens rebelles sont là et ils sont dans l'impunité, ils ne participent même pas. Moi, je crois que ces gens qui ont placé des mines, la date du 4 avril devait être leur date. Ils défilaient pour dire, nous voici, nous les mauvais Congolais, nous les mauvais citoyens qui vous avez rendu invalides. Et voici notre contribution pour la suite de votre vie.
Et cette question que vous vous posez, Dr. Richard, la question que vous posez, voilà, Dr. Richard, vous posez une question vraiment très importante de la responsabilité, de la redevabilité. Et vous, vous estimez que c'est une question d'abord de santé publique, parce qu'il y a des invalides, des victimes aujourd'hui, des mille, c'est qu'ils n'ont plus utilisé leurs membres, qui, des fois, ils deviennent, ils sont stigmatisés, ils deviennent un poids pour des familles. Alors, on voit aussi que des programmes aujourd'hui font défaut pour pouvoir encadrer toutes ces personnes. Mais vous estimez qu'il y a aussi le devoir de responsabilité, de redevabilité. Cela veut dire que quand on doit identifier ceux qui ont procédé à la guerre, c'est de penser assez compliqué, mais savoir s'il y a des gens qui ont participé à la guerre dans notre pays, par exemple, en utilisant des mines dans leur village, dans leur milieu, qui ont rendu autant des gens valides, mais qui aient quand même la responsabilité soit quand même établie entre les uns et les autres, Dr. Richard. C'est dommage que Dr. Richard a déjà quitté.
Oui, je vous écoute.
Vous êtes d'accord là, oui, voilà. C'est ça pour la relance. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui qu'on puisse déterminer que dans telle zone, il y a eu telle personne qui l'a fait, pour faire les liens sur ce que vous avez dit, ceux qui ont causé la guerre, ceux qui ont placé des mines, qui ont rendu des gens invalides, mais qui à un certain moment sont couverts par une conversion, qu'elle soit religieuse ou politique?
Oui, moi je crois que le chef des opérations X, qui avait ordonné qu'on place des mines, à la cartographie de ces mines-là. La cartographie locale, là où les mines étaient placées. Mm-hmm. C'est ce monsieur-là, s'il est de bonne foi, c'est lui qui doit dire voici dans telle zone, afin que les autres ne soient pas des victimes inutiles. Mm-hmm. Mais on ne le fait pas. Ils ne le font pas, ils sont là comme des grands innocents, mais roulant carrosse aujourd'hui, ayant des grâces, et ils sont présentés comme élevés en dignité.
Dommage. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Richard.
Les chefs des opérations connaissent.
Les gens connaissent, si vous connaissez encore, que les gens aient aujourd'hui cette conscience de pouvoir accepter et se présenter pour dire voilà, j'ai été seigneur des guerres, mais en cette zone, c'est moi qui avais placé des mines aujourd'hui qui ont causé du mal, ou soit c'est des lieux encore où ils peuvent dire voilà, attention, quand j'étais seigneur des guerres là-bas, nous avions fait ça. Et c'est une question vraiment aussi de profondeur, de conscience, de redevabilité, comme je le disais tout à l'heure, et des responsabilités. Merci beaucoup, Dr. Richard, pour ces points de vue. Maître Augustin, vous êtes à Kalima, dans la province de Maniema. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, Radio Okapi. Bonjour aux auditeurs de la Radio Okapi.
Mm-hmm.
Notre question, c'est par rapport à l'invité du jour. Hein, parce qu'il y a force de sensibilisation, Pierrot. Nous sommes au Maniema ici. C'est la ville qui a connu des guerres de libération, guerres de Maïmaï. Vous connaissez vous-même au Maniema. Il y a toujours des victimes. Hein? Après les hostilités, nous avions eu à enregistrer une ONG, Handicap International, qui était venu pour chercher à déminer un peu les mines qui étaient abandonnées par les combattants. Mais il y a de ces victimes-là qui ne sont pas prises en charge. Parce que l'invité, lui, qu'est-ce qu'il songe? Parce que nous sommes au Maniema ici. Vous savez, il y a de ces vieilles mamans, il y a de ces mamans-là qui commençaient à cultiver les champs. Même au jour d'aujourd'hui, ils racontent toujours des mines-là qui ne sont pas encore explosées. Bon, la prise en charge, est-ce que l'invité du jour peut proposer par rapport à la prise en charge de ces victimes-là aujourd'hui? Il y a d'autres qui sont devenus des handicapés à cause de ces mines-là. Voilà un peu notre intervention, Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Augustin. Dommage qu'on n'a pas l'invité qui devrait vous donner la réponse pour savoir ce qu'ils font. Mais il me vous pose un problème au réel, ça dit qu'il y a un problème en deux. Le premier, c'est les déficits de sensibilisation dans le Maniema. C'est la province qui a connu vraiment, qui a été déchirée par les conflits armés. Avec la situation des mines aujourd'hui, il y a un problème. D'abord, c'est le déficit de sensibilisation par rapport à tous ces engins qui peuvent encore exister dans les champs, dans les fermes, partout ailleurs, même au niveau même de la ville. Mais le deuxième problème, c'est par rapport aux victimes. C'est ça le grand problème, c'est le nombre de victimes. Des fois, il y a des ONG, vous avez cité Handicap International et les autres qui travaillent pour venir en aide à ceux qui ont été victimes ou ceux qui sont victimes. Mais la plupart des cas, beaucoup de gens sont stigmatisés alors qu'ils ont perdu des membres et ils ne peuvent plus aujourd'hui être intégrés dans la société. Les problèmes se posent. Mais l'idée, c'était de pouvoir voir les uns et les autres engagés dans ces domaines, qu'est-ce que ce soit au niveau du pouvoir public, travailler pour et la sensibilisation et le déminage, mais aussi la prise en charge des différentes victimes dans votre milieu. Merci beaucoup, maître Augustin. Pascal, vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres. Voilà, dommage, on a des petits soucis de ligne avec Pascal qui nous venait de nous appeler de Kinshasa dans ici dans la capitale. Donc, Richard a revenu sur la responsabilité et la prise de conscience des uns et des autres qui ont été impliqués dans ces champs, qui ont créé ces champs de mines, de pouvoir alerter. Mais là aussi, c'est une question des fois qui n'est pas qui ne se traite pas facilement, qui de Seigneur d'ailleurs se présente pour dire voilà, c'est nous qui avons été à la base de ceci ou de cela. 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines consacrés bien sûr à la célébration de la journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Votre point de vue, votre témoignage, surtout dans votre milieu, si vous êtes concerné par cette question, sont les bienvenus dans cette émission.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Pascal, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Pascal.
Je suis monsieur Pascal, je suis victime d'un petit personnel au niveau de l'Équateur. Sur le plan morphologique, j'ai perdu la vue, j'ai perdu la main gauche. Sur le plan socio-professionnel, j'étais professeur d'anglais à l'Équateur. J'ai perdu même mon boulot, j'étais mécanisé. Je viens d'arriver à l'Équateur, ici à Kinshasa, il y a des là une semaine. J'ai été voir les gens de la mine de la Monisco, ils m'ont envoyé voir les gens de l'UNMAS, j'ai été à l'UNMAS, ils m'ont renvoyé d'aller voir le musée de l'affaire intérieure, surtout voir monsieur docteur Michel qui est chargé de lutte anti-personnel, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il me les a repris. Je suis dans la précarité, je passe une nuit dans une salle de classe, je suis moi-même non-voyé à cause de cette nécessité, de cette handicap de mine anti-personnel. Alors j'appelle vraiment, je profite de cette occasion pour que je passe par la radio Capi. Si le gouvernement ou la communauté internationale pourrait faire quelque chose pour nous, les victimes de mine anti-personnel. Vraiment, on reste dans la précarité, on est abandonné, on est marginalisé, on a perdu nos boulots. Je ne sais pas si quelque chose pourra se faire. Je demande vraiment à ce que la radio Capi intervienne pour ma cause.
Mais remontons un peu le temps, nous sommes vraiment choqués par ce qui est arrivé, hein. Désolé vraiment Pascal pour ça, mais alors c'est dans quelles circonstances vous êtes parvenu à connaître un peu cette situation malheureuse?
Bon, j'étais déjà étudiant à l'université, j'étais allé en vacances au village, alors j'ai des frères cueillir les cassons dans la plantation, lorsque je suis allé cueillir les cassons, alors que le mine était déjà enfoui dans les sols, alors en passant, je me suis heurté contre un rocher, moi je croyais que c'était un rocher, alors c'était une mine, ce mine qui a explosé brutalement, le visage est éclaté, je suis resté avec un corps cicatriciel, vous trouvez des cicatrices partout. Les yeux sont totalement éclatés, la main gauche déjà amputée, toute la poitrine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des problèmes cardiaques à cause de cela. La jambe gauche, une grosse blessure, c'est pour venir là-bas. D'ailleurs, en marchant, je boitille, il n'y a pas moi, je vais perdre mon boulot. Est-ce que vraiment, il n'y a pas moi, est-ce que la communauté internationale, même le gouvernement congolais, peut faire quelque chose vraiment pour nous? Je viens d'arriver, il n'y a personne qui s'occupe de moi.
Dommage. Et Pascal, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous arrivez à Kinshasa il y a une semaine. Vous étiez ici à la MONUSCO. On vous a envoyé à l'UNMAS. Là, on vous envoie au ministère de l'Intérieur. Professeur Michel, vous avez dit docteur Michel qui s'occupe de cette question. Et dommage, personne ne vous reçoit. Vous êtes dans une salle de classe à Kinshasa. C'est douloureux, votre témoignage. Mais nous pensons qu'à travers cette émission, à travers cet échange, on pourra établir des contacts qui puissent permettre en fait que l'État congolais, les structures qui peuvent venir en aide aux victimes. C'est ce que disait notre ami maître Augustin qui nous appelait des Kalima tout à l'heure au Maniema, qui est la plus élégante. Pour l'homme aujourd'hui, c'est la prise en charge des victimes des mines antipersonnelles, les gens qui se retrouvent stigmatisés et rejetés dans la population alors qu'ils sont tout simplement victimes d'une situation indépendante de leur volonté. Mais nous pensons qu'à travers cet échange, on pourra arriver vraiment à vous aider, à vous assister, qu'est-ce que ce soit au niveau du pouvoir public ou des ONG, une occasion aussi. Voilà, merci beaucoup. Ça, mais je crois que dans ces débats, plus les gens sont revenus sur l'UNMAS, sur Handicap International, personne n'a évoqué aujourd'hui la situation du gouvernement congolais, une structure publique qui s'occupe des luttes antimines. C'est vous qui nous rappelez qu'il y a docteur Michel qui travaille, mais beaucoup de gens n'en parlent pas, ignorent cette structure, et pourtant elle devait être au devant de la scène, même dans cette célébration. Quand on a suivi plus les interventions, c'est plus les Nations Unies qui sont intervenues dans la célébration de la journée que la RDC avec les structures qui s'occupent de cette question de mine. C'est ce qui fait aussi les difficultés que nous avons eues pour pouvoir avoir ces officiels pour intervenir dans cette émission. Merci beaucoup, Pascal, de ces points, de votre coup de fil. Nous pensons que les choses peuvent évoluer dans le sens possible pour que vous soyez quand même secourus. Henri, vous êtes à Kisangani. Bonjour Henri et bienvenue dans cet échange.
Bonjour,
vous écoutez Henri.
Je profite pour cette occasion pour quand même ajouter quelque chose parce que je suis technicien de développement rural. L'émission m'intéresse beaucoup et toutes les interventions, vraiment, je suis d'accord avec. On a évoqué la sensibilisation, les méthodes, les médias. Mais si on n'arrive pas à résoudre, à prendre une solution en amont, ça sera difficile. En amont, cela veut dire quoi? Parce que ce sont des engins qui sont fabriqués aux Occidents et on les utilise pendant les différentes guerres. Or, à Kisangani, nous étions l'objet de différentes guerres, là où on a planté des mines, par exemple au point kilométrique 13, au point kilométrique 23, c'est la route Ituri et Lubutu, et dans la province orientale, l'ancienne, disons, il y a Ituri, il y a Basoko, partout. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement aujourd'hui ne peut pas utiliser des associations locales ou soit des ONG locales? À Kisangani, en passant, je vois une ONG à Frilam. Là, je connais un peu parce que c'est dans notre ville de Kisangani. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette ONG nationale qui a des experts? Et je sais, on envoie des Congolais aller à Côte d'Ivoire pour deviner. Or, nous avons cette association dans RDC, on n'arrive pas à l'utiliser. Mm-hmm. C'est une association dont on peut même les financer à partir de notre gouvernement, en collaboration avec l'armée. On peut diminuer sans paix la situation de mine dans notre
Merci. Merci beaucoup, Henri. Merci. Vous avez évoqué cette question en amont. C'est ce que disait aussi Maître Adrien, je crois, en début d'émission. Il a insisté sur le fait que ces mines arrivent sur terrain parce qu'il y a des conflits armés, il y a la guerre. S'il y a un moyen qu'on puisse commencer d'abord à faire un travail en amont, cela veut dire lutter contre les conflits, considérer la paix comme une priorité. On ne peut pas arriver à les utiliser. Mais dès lors qu'on a déjà la situation, comme vous l'avez dit, au point au PK 13 et 23, il y a tout le bout. Lubutu, dans la seule province orientale, mais s'il y avait moyen que le pouvoir public, la structure publique qui s'occupe de la lutte anti-mine puisse s'impliquer avec des ONG locales comme celle que vous avez citée à Kisangani, qui a une expérience dans ce domaine, pour pouvoir travailler d'abord pour les déminages, mais aussi cette grande question de la sensibilisation et la question de la prise en charge de victimes, ça c'est très important. Mais quand vous regardez aujourd'hui Henri, si Henri est encore avec nous, Henri, est-ce qu'on a les mêmes problèmes comme celui qui nous a été présenté tout à l'heure par Pascal, par rapport à la prise en charge des victimes aujourd'hui à Kisangani, Henri, si vous êtes avec nous.
Oui, oui, je suis d'accord. À un moment de la guerre, on prenait en charge, il y avait l'Handicap International qui s'occupait de nos frères qui étaient victimes. Moi, je connais quelques cas, mais bien sûr. Mais jusqu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on va continuer à vivre et pourtant la population dépend de la forêt où on doit cultiver, on doit faire des choses. La forêt est abandonnée à cause de ces enjeux. Comment est-ce qu'on doit...
C'est important. Merci beaucoup.
La charge, c'est bon, mais le mine continue parce que ça a une longue vie. Plus de 50 ans, je pense, ça doit rester toujours sous le sol. Alors, comment est-ce qu'on va trouver une solution? C'est ce que j'avais dit, mais au lieu d'attendre les Nations Unies, les ONG internationales, nous avons des experts qu'on les utilise dans d'autres pays, à Kisangani, ils sont là. Pourquoi ne pas les utiliser pour nous donner les moyens
et leur donner le moyen. Et ça, c'est le rôle. Et ça, c'est le rôle.
Le sol, jamais. Mais diminuer, méfisquer cette situation pour permettre à la population qu'il cultive aussi.
Merci.
Et pour que nous continuions à vivre.
Merci beaucoup, Henri. Et ça, c'est la responsabilité de la structure publique qui s'occupe de la lutte anti-mine. Parce que dans tous les exemples donnés par les auditeurs, on revient plus sur les Nations Unies ainsi que Handicap International. Ce sont des spécificités en appui, mais le grand travail doit être fait par les institutions nationales de la RDRC. Merci beaucoup, professeur Ignace. Vous êtes à Colosi. Merci de vous être venu à nous dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci. Je voudrais juste amener quelque chose par rapport à ce qui venait d'être dit. Quand on parle de mines antipersonnelles ou toutes sortes de mines, on sent que ça porte directement beaucoup plus sur les zones qui sont en proie de guerre ou d'autres situations dangereuses comme cela. Mais je voudrais dire que dans les cas de sensibilisation, j'aurais souhaité que même nous qui sommes dans des zones où la guerre n'est pas passée, nous devions en principe avoir quelques notions sur les mines. Personnellement, quand on parle des mines, peut-être dans des films ou dans des livres, j'aurais aimé que l'UNMA puisse prévoir cette sensibilisation, l'étendre dans des zones comme les nôtres, parce qu'on ne sait pas. Les gens sont en train de se déplacer, on va à gauche, on va à droite, il n'est pas rare de voir des gens qui sont chez nous ici aller dans des zones où il y a des mines, juste pour les préparer en amont à ces genres de situations, hein, à toute éventualité, voulais-je dire. Hein, parce que ça peut arriver qu'on se retrouve un jour dans telle situation. C'est pas à ce moment-là qu'on devra chercher à s'informer pour se protéger ou avoir des attitudes à afficher face à ces situations. Voilà, c'est parce que je disais. Donc, réellement, en amont, on devrait penser aussi à la sensibilisation dans des zones qui ne sont pas directement concernées par cette situation malheureuse.
Oui, professeur Ignace, vous avez raison. D'ailleurs, il n'y a pas seulement les mines, il y a aussi la question de restes explosifs des guerres, comme on le dit. Il y a des grenades aujourd'hui que les enfants ramassent dans les milieux où il n'y a pas eu de guerre. Il y a des grenades qui ont été ramassées par des enfants. Il y a des obus qui ont traîné parce que les militaires sont passés par là. Presque, c'est tout entière. S'il n'y a pas eu de guerre récente, il y a au moins eu une guerre de 50 ans dans les Katanga. Il y a 60 ans, il y a eu des guerres. Il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y avait des guerres. Et pourtant, ces engins peuvent rester en sous-sol. Et on peut aller creuser le diamant quelque part. On peut aller chercher de l'or et tomber sur cet engin. C'est pourquoi vous avez raison de solliciter que la sensibilisation soit étendue à toutes les zones, même celles qui n'ont pas connu la guerre récente ou celles qui ne connaissent pas la guerre actuellement. Merci beaucoup, professeur Ignace. Isaac, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue, Isaac.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour à nos auditeurs.
On vous écoute, Ignace.
Oui, c'est Isaac Inemede. Je vous appelle à partir de Kananga. Je vous ai suivi puisque je viens d'ouvrir mon poste récepteur. Et quand vous parlez des listes anti-mines et des explosifs de guerre, effectivement, nous travaillons dans l'éducation au risque et restes explosifs de guerre, mais le travail est trop grand. Et nous n'avons pas de soutien. Il y a des villages, par exemple, à 25 km du centre-ville de Kananga, village Kipambula, là où nous avions trouvé les munitions éparpillées dans des champs, lorsque on avait fait la démolition par les Belges. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, nous avions écrit à nos autorités de l'UNMA, c'est l'âme, et nous attendons toujours, puisque ces champs sont pris en étage par ces munitions. Nous ne savons pas quand. Et nous profitons de cette occasion. Et centre-ville de Kananga est vraiment pollué. Il y a même les militaires qui ont commencé à faire les marchés avec les ixos, comme nous appelons les restes explosifs de guerre. Ils vendent ça aux pêcheurs. Bon, c'est quelque chose que nous déplorons aussi. Et les autorités de l'UNMA, ces dames peuvent en tout cas intervenir dans ces cas-là.
Merci beaucoup, Isaac, pour ces témoignages. Rappelons quand même que Kibambula, comme vous l'avez dit, avait 6 km de Kananga où se trouve ce site de formation de l'Académie militaire pour plusieurs générations où les élèves officiers de l'OPO vont pour apprendre. On y passe presque 6 mois et il y a toute une grande population aux alentours avec des champs. Et ça, c'est une grande préoccupation. Mais dès lors que vous avez découvert qu'il y a ces munitions qui polluent les champs et qu'on a écrit, personne n'est réagi, mais quand même, c'est vraiment inquiétant vu la population qui est dans ces coins de la ville de Kananga et qui doit en principe recourir à ces champs. Et mais aussi cette pratique de pouvoir vendre ces explosifs aux pêcheurs, ça c'est très dangereux, ça a été plusieurs fois dénoncé. Mais comme vous travaillez dans les domaines, je crois que vous devez encore marteler, voir l'autorité provinciale. Je crois bien, Isaac, vous pouvez vous approcher auprès de l'autorité provinciale pour pouvoir insister, parce que ça c'est une question, c'est un danger permanent pour la population et même ces pêcheurs qui s'hasardent à acheter ces grands géants pour pouvoir les utiliser dans l'eau. C'est vraiment quelque chose qui demande que vous puissiez en tout cas insister beaucoup plus auprès de l'autorité provinciale. Merci beaucoup Isaac Rifan, vous êtes à Bounia. Bonjour Rifan et bienvenue dans cet échange.
Merci beaucoup monsieur le journaliste de m'avoir encore donné la parole.
On vous écoute Rifan.
Merci bien, je voulais juste intervenir juste en ce qui concerne la journée internationale de lutte contre l'antimine.
Oui, allez-y, oui, on vous écoute, vous n'avez que 30 secondes parce qu'on termine déjà l'émission.
Okay, merci bien. Et chez nous, nous avons encore les problèmes ici du Rumo. Et les forces de résistance patriotique de Litour continuent toujours à semer des désordres. Comment on peut déclarer la zone ratifiée alors que nous sommes en train de vivre dans un conflit d'armée? Il faudrait d'abord commencer à démobiliser tout ce monde, puisque ici, tout proche ici à Bounia, on ramasse pas mal, disons, des armes.
Et oui, Rossin, vous avez évoqué qu'il y ait encore de groupes armés qui continuent à opérer du côté des Romous, et là c'est un problème. C'est vrai, on le disait tout à l'heure, aussi longtemps qu'on ne lutte pas contre les conflits armés, ça sera difficile qu'on arrive à résoudre cette question des mines et aussi d'autres restes explosifs des guerres. Et vous insistez beaucoup sur la lutte contre les conflits armés, mettre fin aux groupes armés, et comme ça on va éloigner la population de ces engins des morts qu'on peut retrouver à gauche, à droite. Merci beaucoup, Rifan, pour ces témoignages. Merci à vous tous, vous avez été nombreux. Le sujet a été très intéressant pour les uns et les autres, parce qu'il en va de notre sécurité. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention.
Merci beaucoup.
Allô? 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 Tu ne réponds pas?
Merci à toute l'équipe qui nous aide à produire ces magazines. Dieudonné Yangassa était à la mise en onde, Julie Pézabongonda au standard, Jérôme Gamboïta à la réalisation et la coordination de cette émission, qui Pierre et l'ami a eu le plaisir de vous présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 20h30 heure de Kinshasa. Il nous reste pour le moment à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Au revoir.